Ton feed X puis ton TikTok, c'est bien cool.
Je voulais vous dire ce qui se passait parce que vous êtes tout l'important pour moi. Vous faites toujours partie de ma vie.
Mais il n'y a rien qui bat l'information locale. Le prix du gaz à Québec, les pistes cyclables du maire Marchand puis la victoire du Rouge et Or. Ça se passe pas à Shanghai puis à Silicon Valley. Pour tout ce qui se passe dans ta ville, c'est Boulevard 102.1.
Oui.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Bonsoir, bon lundi. Bienvenue dans la première édition de Marceau, le soir en 2025. Et comme on a une formule gagnante le lundi, bon, on peut pas la changer, on le garde. C'est notre maître Marc Bellemare qui est encore une fois avec nous ce soir. Bonne année, maître Bellemare.
Ben oui, bonne année 2025, franchement. Mais t'as pas travaillé dans le temps des fêtes, ça me fait... Le réveillon, là, tout le monde attendait pour te parler. Là.
Maître Bellemare, j'ai fait ça pendant 13 ans, ouais, mettons 12 ans, travailler à la radio pendant le temps des fêtes. Puis je vous dirais que là, ça fait 2 ans que je travaille pas pendant le temps des fêtes. Il y a la soirée du 24, j'aurais aimé peut-être rentrer en onde pour jaser un peu avec les tout seuls, là. Mais pour le reste, là, je me suis reposé. J'avais hâte de revenir aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, être à la maison à rien faire, c'est tannant. Mais je suis là, puis je suis content. Puis ça me confirme juste, à chaque fois que je reviens, ça me confirme juste à quel point on a la chance de faire le meilleur métier du monde, à mes yeux, à moi, du moins.
Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Parler aux gens, donner ton avis, avoir un micro, pouvoir diffuser aussi, informer, influencer, c'est un grand privilège quand même dans notre société. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont cette possibilité-là.
Moi, c'est plus le contact avec l'auditoire que j'aime beaucoup. Puis pendant le temps des fêtes, je me suis promené un peu. Oui, j'ai été au Mexique, mais j'ai été au Mexique juste une semaine, puis j'ai eu 2 semaines pour me promener à Québec puis dans les environs parce que j'ai deux petits hockeyeurs. Jaser avec les gens aussi, c'est une belle chaleur. Quand on fait un métier de communication, puis on a la chance de jaser avec des gens, par l'entremise de la télé ou encore de la radio, puis même de l'Internet maintenant, on voit à quel point on peut rentrer dans les chaumières des gens, puis jaser avec eux autres, puis échanger. Puis des fois, les gens abordent des sujets qu'on pensait pas pouvoir aborder avec eux autres, puis on a leur opinion, puis des fois, ils nous font changer d'idée. Mais souvent, ils se souviennent plus de mes niaiseries que mes opinions. Fait que c'est pas grave.
Puis là, ils voient ta face sur les panneaux, un peu partout. Fait que ça peut aider à te reconnaître aussi. Mais est-ce que les gens te reconnaissent par la voix? Par exemple, tu es au dépanneur en train d'acheter, je sais pas quoi, moi, un sac de chips ou une caisse de 12. Est-ce qu'il y a des gens qui se retournent et qui disent êtes-vous, M. Marceau?
Non.
Juste par ta voix?
Non, c'est jamais arrivé. Ça arrivait beaucoup à M. Arthur. André Arthur, il avait une grosse voix particulière. Ça arrivait beaucoup à Gilles Parent. Gilles Parent qui, quand il arrivait dans un endroit, il parlait tellement fort que les gens savaient que c'était lui avant même d'y voir la face. Mais moi, c'est pas la voix. Là. Même, je vais vous confier quelque chose. Au Canac, à Sainte-Marie, je m'en vais chercher des matériaux. Puis le monsieur me dit, je mets ça à quel nom? Je dis, vous mettez ça au nom d'Yannick Marceau. Puis là, il dit, ah, comme l'animateur de radio.
Moi aussi, ça m'arrive des fois.
Exactement comme lui. Fait que non, c'est plus ma face qui fait en sorte que les gens nous reconnaissent parce que avec les Facebook, l'Internet et tout ça, les gens peuvent nous voir. Ils ont la malchance de nous voir. Fait qu'on peut plus dire qu'on est beau parce que là, ils savent qu'on n'est pas beau. Mais ils me reconnaissent plus par ma face que par ma voix. J'ai pas une grosse voix particulière. Là. Gilles Proulx avait une voix particulière.
Il s'imagine pas que ça peut être toi.
Ah, peut-être. Et vous faites dire ça des fois quand vous dites votre nom, ils disent « Ah, comme l'avocat, là, maître Marc Bellemare. »
Non, pas moi, mais mon fils, parce que j'ai un fils, j'ai un junior. Moi, mon deuxième garçon s'appelle Marc aussi. Et puis, lui, il se fait souvent dire « Oui, comme l'avocat, ha, ha, ha. » Puis ça, « Où êtes-vous parent que l'avocat? » Puis des fois, il est content de le dire, d'autres fois, il est pressé, puis il n'a pas même le temps, parce que là, les gens se mettent à parler, comprends-tu?
Ouais. Ouais.
Il raconte leur expérience, puis il a dit ci, puis il a dit ça, puis lui, comprends-tu? Lui, c'est... Lui, il a 25 ans, là, c'est pas le papa, là. Alors,
j'ai deux de mes chums de gars qui s'appellent Daniel Bouchard. Fait
OK.
qu'ils sont plus vieux, un petit peu plus vieux que moi. Fait que quand ils étaient jeunes, eux autres, ils se faisaient tout le temps. Ah, Daniel Bouchard, comme le Gauleur. Oui, oh, oui, comme le Gauleur. J'en ai un qui s'appelle Michel Bergeron. Qui est une bonne connaissance, là, mais qui n'est pas le coach des Nordiques de l'époque. Lui, à chaque fois qu'il dit « Réservation au nom de Michel Bergeron », des fois, le gérant dit « Ah, elle est bonne! » Comme le coach, là. Mais c'est
ouais,
vraiment
c'est
son
ça.
nom. J'en ai un autre qui... c'était mon prof au secondaire. C'était mon prof de musique au secondaire, Maître Bellemare. Elle s'appelait Céline Dion.
Okay.
Puis elle faisait partie de... ils ont comme une association, là, les artistes, là, avec un bottin. Ben, je pense que ça s'appelle le bottin des artistes. Puis il y avait
okay.
le nom de ma prof de musique, Céline Dion. Il y avait son nom dans le bottin des artistes. Puis le premier chèque que Céline Dion, la chanteuse, a obtenu pour la pub de Chrysler, ben, il a été à la mauvaise Céline Dion. Et elle a reçu le chèque de Chrysler directement chez elle. Puis à ce moment-là,
wow.
elle avait réussi à rejoindre Renan Jalil. Puis c'est Renan Jalil qui avait dit un gros merci de nous avoir donné ce chèque-là. Elle n'a jamais voulu nous révéler le montant qu'elle avait reçu chez eux. Mais moi, je ne l'aurais pas
okay.
dit. Je dis, moi, c'est à mon nom, ce chèque-là. Là. Fait que je l'encaisse, puis c'est tout. Là. C'est pas de vos affaires.
En tout cas, quand je recevrai chez nous un chèque de plusieurs millions au nom d'Yannick Marceau, je te promets que je vais t'appeler.
Ouais, ça arrivera pas. Hey, grosse éclipse médiatique aujourd'hui, Maître Bellemare. Bon, on savait que Justin Trudeau, ses heures étaient comptées. On savait juste pas quand il allait prendre la parole. Vers l'entour de 10h50, 10h55 ce matin, il a annoncé sa possible démission prochainement. Là. Donc, il renouvellera pas ses vœux avec le Parti libéral. Moi, je m'attendais à ce qu'il quitte totalement. Lui, il a choisi une stratégie tout autre. Puis là, le Parlement, il est prorogé jusqu'à mars 2025, le 24 mars 2025. Donc, un 3 mois avec un Parlement qui ne fonctionne pas. Ça fait déjà quelques semaines que le Parlement d'Ottawa ne fonctionne pas. C'est-tu la pire des situations qu'on vit où on aurait pu peut-être avoir une situation meilleure que ça, mettre un chef par intérim du Parti libéral?
Mais là, le problème, c'est que quand un premier ministre comme ça, qui est à 16% d'un sondage, qui n'a pas la cote, mais vraiment pas, puis qui accumule une comédie d'erreurs depuis, pas depuis 2015, parce qu'il a quand même eu du succès, là, il a été élu 3 fois, là, une première fois majoritaire, deuxième fois minoritaire en 2021. Mais il reste qu'il n'est pas populaire, Trudeau. Puis dans ce temps-là, il me semble que tu dis bonjour, tu remercies tes amis, on te fait peut-être une petite cérémonie, puis tu t'en vas, puis tu t'éclipses, tu laisses aller les choses. Parce que si tu restes, bien tu laisses ton ombre planer sur l'ensemble du processus. Il dit qu'il ne se présentera pas, il démissionne, mais il reste en poste, il démissionne comme, en tout cas, on ne sait pas trop, là, c'est un peu ambigu comme décision. Mais le problème, c'est que là, il faut que les libéraux se trouvent un chef ou une chef pour le remplacer pour aller à la prochaine élection. Et là, j'ai l'impression que du côté du NPD, qui a toujours appuyé Trudeau, eux autres, ils veulent une élection parce que comprends bien que c'est connu, là, il y a comme des vases communicants entre les libéraux fédéraux puis le NPD. Très souvent, les gens qui sont à gauche du spectre politique vont voter NPD, surtout au Canada anglais, vont voter NPD ou libéral. Alors, la chute de Justin Trudeau aide le NPD dans le reste du Canada parce que le vote de gauche passe des libéraux au NPD. Parce que des gauchistes anglophones au Canada anglais, ils voteront pas pour Poilievre, c'est certain. Poilievre est à droite. Et les gauchistes du Québec, ils vont voter beaucoup pour le Bloc. Donc, il y a une alternative au Québec. Tu peux voter NPD comme tu peux voter Bloc quand tu es à gauche, ou tu peux voter libéral. Mais comme la chute de Trudeau est également assez forte au Québec, les gens vont aller ailleurs. Fait que l'intérêt du NPD aujourd'hui, là, c'est d'aller à une élection plus sacrée aussi, en espérant peut-être ramasser l'opposition officielle. L'intérêt du Bloc, c'est un petit peu la même affaire. C'est de profiter de l'effondrement des libéraux pendant l'élection le plus vite possible. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on va avoir un vote de non-confiance d'ici la fin du mois, probablement, puis qu'on va être en élection au mois de mars. Mais je peux me tromper. Mais de toute façon, il reste qu'il faut que les libéraux se trouvent un chef, et là, ça presse. C'est urgent. Parce que, tu sais que l'histoire canadienne et québécoise nous enseigne que des premiers ministres comme ça, qui ont fait 2 ou 3 mandats, qui sont là depuis 8-10 ans, et qui décident de quitter, les remplaçants sont battus à plate couture. Et là, il faut se souvenir, ici au Canada, là, de différentes expériences. Je me souviens de John Turner, par exemple, qui avait remplacé Pierre-Elliott Trudeau en 84. Il a été remplaçant de Trudeau, donc premier ministre du Canada pendant à peu près 3 mois, puis il a été battu par Brian Mulroney en septembre 84. Lui, là, c'est un espèce de remplaçant d'un premier ministre démissionnaire qui n'a pas eu le temps de se faire connaître assez, puis qui n'a pas eu le temps de prendre la position. Kim Campbell, c'était la même affaire en 93.
Ça a été court.
Elle a été première ministre pendant 3, 4 mois,
Ouais.
puis elle a été battue par Jean Chrétien, solide, majoritaire. Et même au Québec, là, je ne sais pas si tu te souviens, tu étais assez jeune, mais les deux frères Johnson, là,
Daniel?
Pierre-Marc Johnson avait succédé à René Lévesque en 85. Il a été premier ministre pendant 3 mois, puis il a été battu solide par Robert Bourassa, qui revenait au pouvoir en 85. Son frère Daniel, il a succédé à Robert Bourassa en 94. Il a été là pendant 3, 4 mois, puis il a été battu par Jacques Parizeau, je pense que c'est le 12 septembre 94. Mais majoritaire aussi. Alors, tu sais, les situations de cette nature-là, quand le monde est écœuré d'un premier ministre, ils sont aussi écœurés d'un parti. Puis peu importe qui tu vas mettre là, les perspectives de succès électoral pour les libéraux fédéraux sont à peu près nulles. Fait que là, ils sont obligés de se trouver un remplaçant crédible, solide, connu, qui va essayer de faire face au prochain scrutin électoral. Fait que là, c'est pas tout le monde qui veut y aller, tu sais, comprends-tu? Tu sais, je pense à Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, de la Banque d'Angleterre. C'est un économiste connu, respecté dans son milieu comme économiste, mais lui, ça a été tenté de s'en aller là pour peut-être se faire ramasser solide au printemps, là. Puis là, se retrouver à l'opposition avec une gang de chialeux pour le peu qui va rester.
Commencer avec une grosse
Comment?
défaite en partant, ça doit pas être la meilleure des situations. Mais pour ce qui est de Mark
Ben non, mais c'est
Carney,
ça. Mais regarde,
il
c'est que si tu vas chercher un gars qui n'est pas, ou un chef qui n'est pas déjà dans le parti, ben là, il y a le désavantage de ne pas être assez connu comme politicien. Il peut être connu comme banquier, il peut être connu comme joueur de hockey, il peut être connu comme acteur, mais il va donner quoi comme premier ministre? C'est un autre job, là. Tu peux être très bon dans un domaine X, dans l'économie, mais tu peux être très poche comme premier ministre ou comme chef de parti. Alors, si tu vas chercher un gars comme Carney, il n'est pas connu, il n'est pas connu. On sait c'est qui un peu, mais tu sais, il n'a jamais eu d'expérience politique, ce n'est pas quelqu'un que tu vois depuis 7-8 ans. Par contre, il amène un certain renouveau. Mais si tu vas chercher quelqu'un qui est déjà dans le parti, comme Mélanie Joly, à qui on parle, Christophe Freeland, de qui on parle, François-Philippe Champagne, de qui on parle,
Dominique
puis
Leblanc.
Dominique Leblanc, ça, c'est des gens qui sont avec Trudeau depuis toujours. Mais par contre, ce n'est pas des nouveaux politiciens. Ils
Exact.
sont connus, mais ils sont connus pour l'héritage de Trudeau. Fait que là, ils traînent des casseroles avec eux autres parce que le monde est écœuré de Trudeau. Puis là, c'est un peu l'alter ego de Trudeau qui viendrait comme chef du parti avec ses mêmes valeurs, qui a entériné toutes les décisions impopulaires depuis 2011, 2021. Alors, écoute, je ne sais pas comment ils vont s'organiser parce que faire une campagne au leadership, là, avec des memberships, puis les votes, puis tout ça, puis des candidats qui vont s'affronter puis qui vont amener leur vision, ils n'ont pas le temps de faire ça. Puis même s'ils le font, il peut y avoir des grosses divisions dans le parti parce que tu vas avoir les anciens, tu vas avoir les nouveaux, puis là, il peut y avoir des schismes. Hein. Il y a des perdants, puis il y a des gagnants dans toutes les courses à la chefferie. À moins que ce soit le caucus libéral avec la direction du Parti libéral qui décide de nommer un chef. Et je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont plutôt s'entendre parce que les règles du Parti libéral du Canada permettent qu'au bureau national du parti, de concert avec le caucus, c'est-à-dire les députés élus, de désigner un nouveau chef sans qu'il y ait de campagne au leadership.
OK.
Ce qui donnerait peut-être une couple de mois de plus au nouveau chef pour faire la campagne électorale, puis quelques mois pour se faire connaître. Parce que moi, d'après moi, le gouvernement va être renversé à la fin du mois.
À fin du mois, ce sera à la fin du mois,
Mais
selon vous?
d'après moi, là, parce que Poilievre a promis un vote de confiance pour le 27 janvier, je crois. Et je pense que le Bloc, qui a le vent d'un voile au Québec, puis le NPD, qui a le vent d'un voile à cause de la baisse des libéraux fédéraux ailleurs au Canada, je pense qu'eux autres, ils trouveraient leur compte à ce qu'il y ait une campagne avant que les libéraux aient le temps de s'organiser comme il faut pour que les libéraux soient complètement effondrés, là.
Effectivement. Autre sujet qui est pas plus, qui est pas plus le fun, la défaite de Team Canada Junior au championnat du monde de hockey junior. C'est une catastrophe pour une deuxième année. Il va falloir changer toute l'équipe en haut lieu, allant du directeur général au coach. Qu'est-ce qui s'est passé avec la vision d'équipe Canada? On a voulu mettre des gars qui... avait un certain talent, qui était extrêmement travaillant, qui c'était des gars qui étaient capables de frapper. Malheureusement, c'est l'indiscipline qui a frappé pendant tout le tournoi à Équipe Canada Junior. Puis on a laissé des gars comme Senecki à la maison, à regarder la télé, alors que c'est le meilleur joueur de 18 ans qui était disponible. Lui, c'est un fin marqueur, Senecki. C'est pas le spécialiste de la défensive, mais c'est un gars qui était capable de mettre des buts dedans. On l'a laissé à la maison. C'est une catastrophe ce qui s'est passé avec Hockey Junior, Maître Belmont.
Oui, on n'a pas. Écoute, ça montre aussi là, qu'on a peut-être un petit problème de ressources. Je ne sais pas. Là. Il y a eu un temps où au Canada, on avait des joueurs de hockey de talent, ça sortait comme des champignons. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a un petit peu moins de Québécois, malheureusement, qui jouent au hockey, un petit peu moins de Canadiens aussi, peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'on a moins de, on a moins de ressources. Les Américains, ils en ont. Hein. Il demeure que c'est un gros pays par rapport au Canada. Fait que c'est, le Canada, pour pouvoir avoir des joueurs de talent qui vont lui permettre de remporter le championnat mondial, il y a un défi, c'est de produire au moins autant de joueurs que les Américains. Il ne faut jamais oublier ça. Mais là, le problème, c'est que ce n'est pas juste face aux Américains que le Canada a eu des problèmes, c'est face aussi à la Lettonie et à la Tchécoslovaquie.
Ah ouais.
Mais surtout la Lettonie. Moi, j'ai écouté le match. Je ne sais pas si tu as écouté le match contre les Lettons. Là. Écoute, on n'avait pas une grosse équipe à battre. Là. Normalement, ça aurait dû être 8 à 0. Là. Mais on a perdu ce match-là. Et c'était... on a donné, je pense qu'on a perdu 3-2 en fusillade. Moi, je regardais aller ça et je me disais, sais-tu quoi? Ils sont tellement pas bons, nos Canadiens, là, que ça prendrait une volée. Il faudrait qu'ils perdent contre la Lettonie pour se réveiller, puis après ça, revenir plus fort puis se faire rentrer dedans par le coach.
Le coach n'a même pas fait de pratique. Il n'a même pas fait de pratique parce qu'il disait que ces gars, ils étaient fatigués, ouais. Ben, de belle mort. On parle pas de gars de 35, 40, 45 ans. Là. On parle de jeunes de 18, 19, 20 ans, là, ben, de belle mort. C'est, tu sais, de dire que oh, les gars sont fatigués, hey, qu'ils prennent un café avant la game puis laissent-les jouer, là. Mais ben, faites-les ça. Pratiquer, Colin.
Oui, ils sont assez en forme pour aller dans les bars et tout ça.
Ben oui.
Mais le fait que ce soit au Canada, est-ce que je ne sais pas si tu as analysé ça, mais moi, je me disais, le stade, et d'abord, c'est à Ottawa, OK? Alors, il y a beaucoup d'Ontariens, il y avait beaucoup de gens de l'Ouest aussi, mais la famille est là, c'est le temps des fêtes, comprends-tu? Fait que le mononcle est là, ma tante est là, grand-maman est là, tes amis sont là. Fait que chaque joueur, à peu près 20-25 personnes autour de lui, là. Il sort de la glace, il s'en va avec sa famille. Dans quelle mesure il y avait un couvre-feu, dans quelle mesure il était concentré sur leur jeu, je ne sais pas. Mais quand tu as de l'indiscipline dans une équipe, tu as des joueurs qui frappent pour rien, tu as des joueurs qui manquent leur lancer, tu as des joueurs qui font des mises en échec qui n'ont pas d'allure, tu as des joueurs qui ont le bâton d'un patin, des punitions niaiseuses. Souvent, c'est un manque d'investissement intellectuel aussi, cognitif. Ils ne sont pas dans le game, ils ne sont pas là. Puis, ils sont plus soucieux de plaire à leur famille, de bien performer au niveau de l'attitude, l'impression qu'ils donnent sur la glace que sur le jeu comme tel. Je ne sais pas, là. Mais souvent, on a remarqué qu'il y a des équipes qui vont performer davantage à l'étranger qu'à domicile. Et dans ce cas-ci, on parle de jeunes de 16, 17, 18 ans, des jeunes hockeyeurs, ils ont en tête large, ça ne passe pas dans la porte. Ils sont les grandes vedettes. Et moi, j'ai l'impression que le fait que ça soit passé au Canada, dans leur bocal, avec la famille et les amis qui étaient autour, moi, j'ai l'impression qu'ils n'étaient peut-être pas à 100% concentrés sur leur jeu. Ils avaient l'air, en tout cas, par bout, assez mêlés sur la glace. Là.
Parce qu'il y a des
puis,
joueurs...
Tu as raison, le recrutement aussi, j'ai remarqué, moi, qu'il y avait des joueurs de talent qui n'étaient pas là. Il y avait quoi? Un Québécois ou deux? Je pense qu'il y avait juste un joueur qui venait de la Ligue junior majeure du Québec, ça se peut-tu?
Oui.
Même Nado, je pense que c'est un gars de Fredericton, c'est un gars de Nouveau-Brunswick. C'est pas un Québécois. Alors, ça aussi, ça m'a un peu tanné. Je me suis dit, bon, c'est quoi cette affaire-là? C'est-tu parce qu'on n'a vraiment pas de joueur junior de talent au Québec à ce point-là? C'est quand même le championnat junior. Je ne sais pas si tu n'as pas remarqué ça.
Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a une problématique au niveau du hockey junior majeur maritime du Québec. Tu sais, puis j'entendais un recruteur parler, un recruteur de la Ligue nationale qui disait que la Ligue de hockey junior majeur du Québec préfère avoir des petits joueurs talentueux que de prendre des gros et grands joueurs qui sont un peu plus longs à se développer. Mais dans la Ligue nationale actuellement, ce qu'on veut, c'est des joueurs qui sont assez grands, là, d'un passé
Oui,
6 pieds,
c'est
qui sont
ça.
capables. Tu sais, il y a des défenseurs qui mesurent 6 et 7, 6 et 8 maintenant, là. Fait qu'ils iront pas chercher ces joueurs-là dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ils vont aller chercher ça dans l'Ouest ou ils vont aller chercher ça aux États-Unis. Puis ils vont dire, bon, on va laisser peut-être un peu plus longtemps dans la Ligue américaine pour qu'ils apprennent leur hockey. Mais à grandeur qu'il y a, ils vont faire l'affaire rendue dans le show en haut, là.
Oui, c'est sûr. Mais il y a des bons joueurs qui performent quand même dans la Ligue nationale. Là, nous, on a juste regardé nos Canadiens avec Suzuki puis Caulfield. C'est quand même pas des géants, puis ils sont quand même bons.
Ouais, mais
Mais
attendez
c'est
un peu, là.
vrai.
Mais quand les séries vont arriver, là,
Ah, c'est ça, t'as raison.
Hudson qui va se faire ramasser par un gars de 245 livres d'un coin,
C'est ça.
alors que lui, il en pèse 170.
Ça prend des épaules. Ça prend des épaules.
Ben, c'est ça, tu sais. Je veux dire, c'est pas tous des Gallagher, là. Gallagher, il est mort, il va se relever pareil, là. Mais les autres, j'ai hâte de les voir en séries éliminatoires. Cela dit, avez-vous eu des gros dossiers pendant le temps des fêtes? Ça, j'ai vu passer votre nom dans l'actualité. Je me rappelle pas sur quel dossier. Je me trompe pas, c'était à Cancun, là. Mais j'ai vu passer votre nom. Y avait-tu des gros dossiers qui se sont passés?
Ben, il y a eu un dossier qui a été dans l'actualité un petit peu à fin décembre, c'est mon parachutiste de
Ah, c'est
Joliette
ça, voilà.
qui a sauté, qui est plus capable de sauter en parachute. Puis lui, il avait eu un accident de travail parce il avait sauté en parachute, puis le parachute a été dysfonctionnel. Lui, c'est un parachute tandem. Ce gars-là sautait 700 sauts par année.
OK.
Mais il saute en tandem. Toi, tu peux t'en vas, je ne sais pas si tu as déjà sauté en parachute. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je l'ai fait virtuellement, mais je ne l'ai pas fait physiquement. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il saute en bas de l'avion avec quelqu'un qui veut expérimenter un saut en parachute.
C'est
Il n'a pas sauté.
un instructeur de parachute.
Un instructeur, il saute tandem, puis il descend à 200 km/h, puis à un moment donné, il y a un bris dans le parachute, puis ça passe à 30 km/h d'un coup sec. Fait qu'il y a une décélération majeure. Il s'est brisé le cou avec ça. Il s'est fait une entorse cervicale sévère. Et la CNSST l'a accepté, ils l'ont indemnisé parce qu'il est employé, comme sa job, c'était de sauter en tandem pour une compagnie de la région de Montréal. Et à un moment donné, quand ça a été le temps de consolider la blessure, déterminer son arrêt de travail, dans quoi il allait aller, lui, il dit, moi, vous allez me recycler, vous allez me former dans d'autres choses parce que je ne peux plus sauter en parachute parce qu'il y a des secousses, puis il y a des vibrations en parachute. Quand tu es dans les airs, là, à un moment donné, il peut y avoir une autre secousse, puis compte tenu que son cou était fragilisé, s'il faisait une crise cervicale dans les airs, il pouvait se retrouver dans l'incapacité de contrôler le parachute puis de contrôler le passager. En tout cas, alors il y a eu tout un débat là-dessus. Moi, je l'ai représenté, puis on a convaincu le juge du fait que sauter en parachute, c'était plus pour lui à cause de sa blessure, puis de l'incapacité des risques d'aggravation pendant une descente en parachute. Et TVA a fait un bon reportage là-dessus pour montrer que la CSST, dans le fond, là, il regarde plus la calculatrice que le dossier, comprends-tu? Il ne voulait pas recycler le gars qui a 47-48 ans,
Ouais.
alors qu'en le recyclant, ben là, ils vont être obligés de payer plus longtemps parce qu'il paye pour la formation, puis il paye la différence de salaire entre l'ancien salaire qu'il faisait, qui était assez bon, là, comme sauteur en parachute tandem, et le nouvel emploi qu'il serait capable de faire, qui serait moins payant.
Écoute, vous me prenez quelque chose, je pensais pas que c'était si payant que ça, instructeur de parachutisme, là. Mais vous me dites que c'est un peu plus. La CNESST veut pas payer pour cet individu-là parce que de lui retrouver, de le refaire faire des études dans un autre domaine,
Oui, c'est
ça
ça.
semble être trop
Si
coûteux.
tu as un accident de travail, puis que tu arrêtes de travailler pendant un an, puis que tu as des traitements, puis au bout de l'année, tu es capable de retourner faire ton ancien travail. Mais la CSST arrête de payer le jour où tu es capable de refaire ton ancien travail. Toi puis moi, là, on aurait une entorse cervicale, là, on
Ouais.
serait capable de faire nos jobs pareils.
Ouais.
Comprends-tu? Parce qu'on ne lève pas des grosses caisses, puis on ne travaille pas comme des plâtriers, la tête au plafond, en extension, puis etc. Et ça dépend de la job que tu fais. Avec une entorse cervicale, tu peux être capable de faire un travail qui n'est pas trop exigeant physiquement, comme ce qu'on fait nous autres, mais tu peux ne pas être capable de le faire aussi. Ça dépend de la job. Si la CNSST s'aperçoit que tu n'es pas capable de faire ton ancien travail, ils doivent te recycler dans d'autres choses. Puis si le nouveau travail est moins payant que l'ancien, mais là, ils doivent payer la différence de salaire jusqu'à 68 ans.
OK. Ah, ben, c'est des informations que j'avais
Alors,
pas.
c'est ça le défi. Fait que la CSST portait à dire, ben, tu es capable de faire ta job, toi, tu étais livreur de pizza, tu es capable de continuer de livrer des pizzas. Mais si toi, tu n'es pas capable de rester assis plus que 20 minutes dans un char à cause des vibrations de ton mal de dos, mais tu n'es pas capable de livrer des pizzas, comprends-tu? Si tu as un genou pété, tu n'es pas capable de monter les escaliers pour aller porter la pizza au troisième étage, là, quand le client reste là. Alors, ça dépend de chaque tâche, mais la CSST est portée à dire souvent, tu es capable de faire la job pour mettre fin aux prestations.
Okay. Puis les cours qui sont donnés, c'est-tu des cours au professionnel, au collégial, à l'université, quand ça
Ça
arrive?
peut arriver. Ouais, j'ai eu des clients, moi, qui ont été recyclés comme pilotes d'avion. J'ai des clients qui ont été recyclés comme informaticiens. J'ai des clients qui ont été recyclés comme techniciens en administration. J'en ai d'autres qui ont été retournés au cégep, qui ont été retournés faire un cours professionnel long. J'en ai d'autres qui sont allés à l'université. Ça dépend de chaque cas, mais évidemment, la CSST est portée à t'envoyer dans des formations qui ne sont pas trop coûteuses, un peu bidons. Pour pouvoir dire au bout de la ligne, ben là, tu es capable de faire tel ou tel job. On t'a formé comme informaticien, mais en fin de compte, ils l'ont envoyé passer faire un stage de 2 mois dans une compagnie d'informatique, puis ils traitent d'informaticien, pour pouvoir dire qu'il est capable d'être informaticien, auquel cas, il y aurait un salaire du nouvel emploi qui serait plus élevé, parce qu'ils payent la différence, ils sont portés à upgrader pas mal la capacité de gain du nouvel emploi,
Ouais.
comprends-tu? Plutôt que de dire que tu es capable de travailler au salaire minimum, ils vont dire que tu es capable de travailler comme comptable à 40 000 par année. Mais à ce moment-là, l'écart est moins important à combler, la différence de revenus.
OK. Puis les avocats, est-ce que c'est des avocats qui sont embauchés à forfait pour travailler pour la CNSST ou ils ont un contentieux, eux autres, qui travaillent pour eux à l'année?
Il y a un contentieux, ils ont des avocats régionaux. Dans chaque région du Québec, ils ont des avocats à temps plein. Qui vont souvent contester les décisions, pas les décisions, mais s'opposer aux contestations des travailleurs. Et puis, les employeurs peuvent contester aussi les décisions de la CNSST. Alors, il y a bien des cas où c'est l'employeur qui conteste, puis le travailleur est obligé de se défendre face à une menace de perdre ses indemnités. Alors, c'est un monde qui est assez complexe, mais il y a des intérêts économiques importants dans le dossier. Tu vois, comme mon parachutiste, là, lui, ça peut être encore 20 ans de prestations, là. Fait que s'il gagnait 60 000 piastres par année avant, puis que maintenant, il ne peut pas gagner plus que le salaire minimum, exemple, parce qu'il a une expérience unique de travail, il a vieilli, il a mal partout, il prend des pilules. À ce moment-là, il y a une différence d'une trentaine de mille à payer, je ne sais pas si tu le sais, mais sur 20 ans, ça peut représenter 500 000 piastres. Fait que c'est pour ça que souvent, il y a une contestation d'une décision de la CNSST qui estime que le travailleur peut refaire son ancien travail parce que ça va le priver de prestations pendant les 20 prochaines années. Et les délais de contestation, c'est 30 jours à CSST. Hein. C'est pas long. Fait que t'as pas le temps de réfléchir longtemps. C'est comme dans la Ligue nationale. Hein. Quand t'as à POC, là, faut que tu fasses de quoi de vite avec parce que sinon, il va être trop tard assez vite. 30 jours, c'est pas long.
Mais le pourcentage des causes qui sont reçues, là, puis que la CNSST paye versus les causes qui se ramassent avec des avocats, ça peut être quoi, la CNSST? On le sait-tu? La CNSST, est-ce qu'ils vont automatiquement en cours avec le client pour contester à chaque fois, payer moins cher?
Ben, quand le travailleur conteste une décision, par exemple, si tu t'es fait une hernie discale en déplaçant un poids, la CNSST dit non, l'hernie discale n'est pas là, au badon n'est pas en relation avec ton mal de dos, c'est une condition personnelle, c'est parce que t'es né de même, puis c'est parce que tu as joué au hockey, puis c'est parce que si. Ils ont souvent toutes sortes de bonnes raisons de ne pas reconnaître la blessure. À ce moment-là, tu contestes, tu t'en vas devant le tribunal administratif du travail. C'est sûr que tu peux y aller tout seul, puis arriver là, puis dire t'sais, au juge, mais là, écoutez, j'ai mal dans le dos depuis l'accident, puis avant j'avais pas mal, puis tout ça, mais souvent, il y a des questions médicales précises qui se posent. T'sais, si tu as déjà eu des antécédents lombaires, puis que tu as bien fonctionné jusqu'à l'accident, puis après ça, tu as mal fonctionné, mais là, il faut que tu fasses la preuve. Souvent, ça prend des experts, il faut faire témoigner des médecins, des orthopédistes, des neurochirurgiens. Fait que c'est ça que je fais, moi. Je regarde le dossier, puis je dis, écoute, là. Tu t'en vas au tribunal, là, tu vas avoir un juge qui va avoir une décision à prendre. Mais si tu veux le convaincre que tu as raison, peut-être c'est mieux d'avoir un expert qui va venir étudier ton dossier, qui va venir témoigner, qui a étudié la médecine jusqu'à 30 ans, qui a 20 ans de pratique en orthopédie, puis qui va dire, Monsieur le juge, c'est certain que c'est l'accident qui a causé cette blessure-là, et voici pourquoi. Parce que si tu arrives là avec ton petit bonheur, ben des fois, c'est pas assez pour que ça passe. Parce qu'il faut comprendre que ces tribunaux-là sont des tribunaux spécialisés et très spécialisés en matière médicale. Là, ce qui est au cœur de tous les débats en accident de travail et en assurance auto, c'est l'état de santé de la victime. Ce qui fait que tu es indemnisé et que tu as droit à telle, telle, telle affaire, c'est que tu as une blessure qui est en relation avec l'accident. Il ne faut jamais oublier ça. Moi, je ne suis pas sur la SAC, puis je ne suis pas sur la CSST, puis toi non plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de problème de santé relié à un accident.
Ouais.
Mais le jour où tu as un accident, à ce moment-là, il faut que tu sois capable de prouver que c'est en relation et d'expliquer pourquoi. Puis ça paraît toujours simple pour les gens. Je remarque toujours, moi, les gens se présentent à mon bureau et ils me disent « Ah, moi, avant, j'étais correct, pasteur, je suis tout proche, puis là, payez-moi. » Ben, je comprends. Ben non, tu sais, le gars, je sais pas, il a un mal de dos, puis il dit « J'ai-tu un accident? » Il dit « Non, non, il n'y a pas d'accident. » Ben, j'ai dit « OK. » J'ai dit « Pourquoi la CNSST devrait te payer? » Ben, j'ai travaillé fort toute ma vie, puis c'est pour ça que j'ai mal dans le dos. « OK, je comprends. » Puis là, tu penses que tu vas venir dire au juge « J'ai travaillé fort toute ma vie, c'est pour ça que j'ai mal dans le dos. » C'est pas automatique, parce que tu as vieilli, tu as 54 ans. T'as joué au hockey, t'as joué à balle molle, t'as fait du ski nautique, t'as fendu ton bois toi-même. La colonne a fonctionné, puis c'est pas juste le travail qui fait que t'as mal dans le dos aujourd'hui. Les bureaux de médecins sont pleins de gens qui ont mal dans le dos, qui n'ont jamais eu d'accident. Alors, c'est pas automatique. Alors, ça va prendre des expertises.
Quand on challenge une décision avec laquelle on n'est pas d'accord de la SAAC, de l'IVAC, de la CNSST, bon, on va rencontrer Maître Marc Bellemare, mais là, on parle de spécialistes qui pourraient arriver dans le dossier pour mettre un peu plus de viande autour de l'os face à un juge. Une fois que si le client gagne, est-ce que c'est la partie adverse qui paye dans ces dossiers-là ou c'est vraiment aux frais
Non.
du client?
C'est aux frais du client. Les frais d'avocat, c'est aux frais du client. Et les frais de médecin, quand tu as besoin d'une expertise, ben, c'est aux frais du client aussi. En matière d'accident de travail, là, c'est le client qui paye pour tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut regarder l'intérêt économique de l'affaire. Si tu regardes, si le gars, il a été, je sais pas moi, la CNSST, il a été arrêté pendant 6 mois. Il aurait droit, s'il gagne sa cause, à 6 mois de salaire à 90 % de son revenu net, mais il est fonctionnaire puis il a eu une assurance salaire pendant ces 6 mois-là. Alors là, j'explique, je dis, écoute, je dis, ça va te donner 2 000 $, ça va t'en coûter 8 000 pour payer l'expert puis tout ça. Fait que c'est pas nécessairement une bonne idée d'y aller à court terme. Par contre, si tu réussis à faire accepter ta blessure, parce que c'est ça l'enjeu, comme étant la conséquence de l'accident, ben, si tu as des aggravations futures, dans 5, 6 ans, 7 ans, tu es opéré, tu arrêtes de travailler, tu perds ta job, mais là, ils vont t'indemniser à condition que tu sois accepté maintenant. Fait que des fois, dans l'immédiat, il y a plus à payer que ce qu'il va recevoir, mais pour les 25-30 prochaines années, si jamais il y a des aggravations, il va être couvert, puis peut-être que ça va être plus rentable pour lui, mais on ne le sait pas. T'sais, on ne peut pas deviner, mais ça dépend du type de blessure qu'il a. Si c'est une hernie discale, ça se peut qu'il soit opéré dans 7-8 ans. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision pour protéger ses droits pour l'avenir dans plusieurs années si jamais il y a une aggravation. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais c'est des décisions qui se prennent avec le client, selon la nature de la blessure, selon l'emploi que le gars fait, selon les risques d'aggravation. Puis à ce moment-là, moi, je suis en mesure de dire, écoute, moi, je pense que ça vaut la peine d'y aller, puis je pense que le montant que tu vas investir, ça va être rentable à long terme.
Souvenez-vous, Maître Bellemare, on parle carrément d'un autre sujet, là. J'essaie de faire. Voilà. Du dossier de Mohamed Al-Balouz. Lui, c'est un homme qui a tué sa femme et ses deux garçons dans des circonstances qui sont épouvantables, des circonstances ignobles. C'est arrivé sur la Brossard en 2022. Et lui, depuis le meurtre de sa femme, prétend être une femme lui aussi. Donc, ce qu'il veut pour purger sa peine, Mohamed Al-Balouz, il veut la purger dans une prison pour femmes. C'est assez particulier que le gouvernement accepte encore ce genre de situation-là où clairement l'individu est détraqué entre les deux oreilles Et là, de l'autre côté, il dit, oh, finalement, je suis pas un homme, finalement, je suis une femme, là, fait que je vais aller en prison de femme. Puis on accepte ça. Il n'y a pas un danger pour les femmes qui sont déjà en prison d'avoir un gars comme ça qui arrive pour opérer puis qui décide de purger sa sentence dans une prison pour femmes.
Moi, je trouve ça inacceptable.
Mais pourquoi on
Puis,
accepte? La plupart des gens, quand on est normalement constitué, là, on dit, ben voyons, le gars, c'est un meurtrier. Il a commis son meurtre en tant qu'homme. Donc, il devrait purger sa sentence comme étant dans les prisons pour hommes. Là, qu'il fasse une pseudo-transition pendant le temps de son procès, puis qu'il purge sa sentence dans une prison pour femmes, puis qu'on accepte ça en tant que société, je trouve ça très particulier. Puis je pense que si on passait un sondage en population, là, à grandeur du Canada, 95% des gens diraient, ce gars-là, c'est un crosseur, puis ce qu'il veut, c'est être dans la bergerie. C'est le loup qui veut être dans la bergerie, là.
ben oui, il va être dans la bergerie parce que c'est un gars, il est né gars. Là, il s'en va dans une prison pour femmes. Moi, si j'étais une prisonnière dans un pénitencier pour femmes, parce que c'est un pénitencier, on parle d'une peine manifestement de 25 ans, donc plus que 2 ans, donc ça va dans un pénitencier fédéral. Et là, tu vas avoir des filles qui sont dans une cellule ou dans un réfectoire avec un gars qui se dit femme, du simple fait qu'il se dise femme, on l'envoie dans une prison pour femme. Moi, je trouve ça inacceptable. Il est né gars, il devrait aller dans une prison pour gars, avec des gars. Comme dans le sport, comme dans toutes les formes d'activité où il a à côtoyer des pairs, on ne devrait jamais permettre ça. Et ça, c'est le résultat des années Trudeau, là, qui a permis toutes sortes de niaiseries de ce genre-là. Là. Puis tu te dis femme, tu t'en vas femme, tu te dis homme, tu t'en vas homme. Moi, je suis complètement contre ça. Et je pense qu'on ne devrait pas permettre ça, mais je pense on va lui permettre, là, de la façon dont c'était orienté. Moi, ce que j'ai vu, les dépêches là-dessus, c'est qu'il allait effectivement aller dans un pénitencier pour femmes. Est-ce que c'est est-ce que c'est ce que tu as vu toi aussi?
Oh oui, c'est ce qu'on mentionne. Là. Il dit s'appeler maintenant Levana Albalouz, puis il va purger un minimum de 25 ans de prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Puis ce qui est inquiétant, c'est qu'on accepte que ça. Moi, là, je veux dire, si
C'est ridicule, c'est ridicule.
vous prétendez être n'importe quoi dans la société, moi, tant que ça ne fait pas de mal à personne, c'est votre vie, puis jamais j'interviendrai. Mais là, il y a un danger certain pour les femmes qui sont
Par respect, ouais.
à la prison de Joliette, là. Tu sais,
Par respect pour les femmes, par respect pour les femmes qui sont là, les prisonnières, les détenues féminines, il ne devrait pas y avoir de gars détenus sur le même niveau parce qu'ils se disent femmes, de la même façon qu'il ne devrait pas y avoir des femmes qui se disent hommes. Ça devrait être le sexe à la naissance qui détermine le pénitencier de la prison où tu vas aller. On parle toujours bien, Yannick, là, de gens qui ont commis des crimes, un meurtre prémédité qui est l'infraction la plus grave du code criminel. On est en train de se demander aujourd'hui si c'est normal que ça se passe comme ça. En plus de ça, tu sais, quelle est la considération qu'on doit accorder à des gens qui se disent du sexe opposé, mais qui ont commis l'infraction la plus grave au niveau du code criminel. C'est sûr que ça devrait peut-être pas rentrer dans notre raisonnement, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. C'est un authentique pourriture sociale. Il a tué ses enfants, il a tué sa femme. C'est un homme qui va nous coûter les yeux de la tête, probablement 1 million de dollars juste en frais de détention, parce que tu sais qu'un détenu fédéral, c'est 330 piastres par jour. Alors, calcule ça sur les 25 ans qui s'en viennent, ça représente peut-être 1 à 2 millions au total, peut-être même plus que ça. Alors, moi, je trouve ça insensé qu'on permette ça, mais je le répète, c'est la tendance woke qui a été dominante à Ottawa, au gouvernement fédéral, depuis que Trudeau est là, depuis 2015, et c'est une de ces manifestations-là. Parce qu'il y a 30 ans, on ne parlait même pas de ça. On n'aurait jamais permis ça. Aujourd'hui, on est rendu, donc il faut toujours donner raison à tout ce qui est marginal comme ça. Et je suis contre l'idée, surtout, comme je te dis, là, compte tenu qu'il y a des impacts sur d'autres personnes. Moi, s'il était tout seul sur une île, il peut bien s'habiller comme il voudra, puis il peut bien se dire homme, femme ou n'importe
Exact.
quoi d'autre, là.
Ça fait pas de mal à
Mais
personne.
tant que tu es au sein d'une clientèle, que ce soit détenu, que ce soit des usagers, que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans une prison, que ce soit dans un club de hockey ou un club de basket ou de cheerleaders homme-femme, ben à ce moment-là, tu dois respecter ton sexe d'origine et ça devrait être ça qui serait dominant. On l'a vu aux Olympiques avec des boxeurs gars qui deviennent femmes puis qui se battent avec des femmes, des affaires de même, ça ne devrait pas être accepté.
Puis je vous
On
pose une
devrait
question.
régler ça et le faire de façon déterminante. Ce n'est pas une mesure de droite ou de gauche, c'est une mesure de respect par rapport aux autres clientèles. Si t'es né gars, tu n'as pas d'affaire à te battre dans un ring contre une fille parce que ta masse musculaire est démesurée par rapport à celle de la fille, puis c'est pas équitable.
Ouais. Puis je vous pose une question comme ça. Advenant le cas où il y a des détenues femmes qui se font agresser par Mohamed Al-Balouz, là, y a-t-il des possibilités de poursuite de poursuite pour le gouvernement? Parce que la
Bonne
personne.
question. Bonne question. Parce que le gouvernement a permis ça, puis on ferait la preuve du fait que lui aurait agressé sexuellement une femme parce qu'il y a des hormones masculines. Et écoute, parce que la question de savoir s'il se dit femme, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas attiré par les femmes,
Ben non, visiblement, il était hétérosexuel. Bon, il a le droit de changer en
là.
cours
Ben
de
non, c'est
route, là,
un homme. Il est
mais.
né homme,
Ouais.
mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attirance sexuelle pour les femmes, même s'il se dit femme, parce qu'une femme peut avoir une attirance pour une femme, un homme peut avoir une attirance pour une femme, mais ça, c'est pas réglé, là. Fait qu'on ne se préoccupe pas de ça. Est-ce que tu as une attirance sexuelle pour les femmes ou pour les hommes? Parce que il y a des, à ce moment-là, il y a des risques d'attentats ou d'agressions qui sont un peu plus élevés. S'ils se retrouvent en dedans à se regarder à bisoune du matin au soir, à avoir toutes sortes de bonnes idées, là. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
On a le plaisir d'être ce soir, comme à chaque lundi, avec l'avocat Maître Marc Bellemare. Vous avez des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST. C'est bellemareavocat.ca. On va faire une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Boulevard.
102.1. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement leur promo tout un quart, tout un prix, avec la cuisse de poulet servie avec tous les accompagnements à seulement 8,70 $ au comptoir et au service à l'auto.
En janvier, dans les restaurants Quesada, le burrito du jour est à 8,49 $. Commandez en ligne en visitant le quesada.ca. Faites-le livrer ou passez le chercher au Quesada de l'avenue Saint-David à Beauport ou du boulevard Amel à Vanier. Quesada vous souhaite une bonne année.
Vous mangez vos émotions? Vous voulez perdre du poids? La solution, c'est Perte de poids Québec. Nous avons tous les produits et services pour votre amincissement. Infrathérapie, protéines, mets préparés, suppléments naturels. Suivez-nous sur Facebook et visitez pertedepoidsquebec.com.
Chez Alimentation Première, votre satisfaction est notre inspiration. Pour une expérience d'épicerie exceptionnelle et des viandes et poissons de qualité supérieure, Alimentation Première. Produits locaux, surgelés, garantis et livrés dans le confort de votre foyer. Toute l'équipe vous souhaite... Bonne année.
Hey Marthe, qu'est-ce que tu fais toi quand tu te lèves le cou barré?
PCN.
Puis quand ton retour au gym s'est mal passé?
PCN.
OK, puis quand tu viens d'accoucher?
Ben si j'étais toi, j'irais chez PCN. C'est eux les pros. PCNphysio.com.
Mélissa Bellan, pharmacienne propriétaire affiliée à Accès Pharma chez Walmart Saint-Romuald, tient à remercier son équipe pour leur travail extraordinaire ainsi que toute sa clientèle pour leur confiance. Tous nos souhaits pour une très belle année 2025, heureuse et en bonne santé. Venez nous rencontrer au Accès Pharma de Saint-Romuald.
Chez Dooley's, jusqu'au 15 février, profitez d'un rabais équivalent à la TVQ sur toute la nourriture et les boissons admissibles. Manger et boire moins cher, c'est bon. Certaines conditions s'appliquent.
S'amuser, boire et manger.
C'est la vente pré-déménagement de Beux chaussures. Bottes d'hiver à crampons, un seul prix, 89 $. Espadrilles, chaussures, bottes, hommes et femmes, de 19 à 79 $. Dépêchez-vous, ça se termine jeudi le 9 janvier. 2197 Léon Armel, ouvert de 10 h à 17 h. En janvier, ne manquez pas la vente annuelle d'OptiBoutique. Profitez de 10 à 70 % de réduction sur toutes nos montures. Venez découvrir nos collections exclusives au 1026 Avenue Cartier. Visitez optiboutique.com pour tous les détails. Votre gare est unique. Nos montures aussi.
La Disco Glace est ouverte. Viens patiner avec tes amis lors de nos différentes soirées thématiques du jeudi au dimanche. Disco Glace, une toute nouvelle patinoire réfrigérée ouverte 7 jours sur 7 de midi à 22 h en semaine et de 10 h à 22 h la fin de semaine. L'accès est gratuit à la Disco Glace.
Le 11 janvier au Centre Horizon, la NSPW débarque avec le Gala Kick-Off. Le champion Travis Toxic défendra son titre dans un combat face à Matt Angel, Pee Wee et Dylan Donovan. Bien en vente sur le point de vente.
Présenté par Boulevard 102, La Taverne Grande Allée et Pirate Barbecue.
Toute l'équipe de Volkswagen Saint-Nicolas remercie sa clientèle pour l'année qui vient de se terminer. Les indices de satisfaction témoignent de votre confiance. En 2025, on poursuit le virage électrique. Venez voir le nouveau ID Buzz et le ID4. Volkswagen Saint-Nicolas, ça clique avec Saint-Nic.
Pendant les fêtes, tu risques d'entendre
« Pis, ça va-tu bien ta job d'électricien? »
Tu es électricien ou mécanicien et tu aspires à mieux pour la prochaine année? Début 2025 est le moment pour façonner ta carrière à l'ABI.
Je suis Simon, directeur de la maintenance à l'aluminerie de Bécancour. Je t'invite à venir visiter l'usine et nos équipes le 23 janvier. Réserve ta place pour cette immersion qui pourrait te donner un tournant à ta carrière au emploi-abi.ca.
Cineas Health, là où chaque contribution fait la différence. Vous avez des allergies saisonnières avec des symptômes de congestion nasale et êtes âgé de 18 à 50 ans? Participez à notre nouvelle étude clinique. 4 séjours de moins de 24 heures, des tests pour identifier vos symptômes et jusqu'à 3 820 $ en compensation, plus 200 $ pour votre évaluation médicale. Inscrivez-vous dès maintenant. Groupe débutant au mois de janvier.
Cineas Health. Pour un futur en santé.
C'est le retour des soupers à petit prix chez Normandin. Tous les jours dès 16h, pour seulement 10,99 $, savourez en salle à manger l'un des 5 repas incontournables de Normandin. Le combo pizza garnier et spaghetti, le wrap au poulet avec frites, la salade thaï, l'assiette burger smash bob ou le combo lasagne suprême et salade. 5 choix au prix vraiment spécial de 10,99 $. Dès 16h chez Normandin, on s'occupe du souper. Et ce, jusqu'au 16 février. Normandin, ça fait plaisir!
Boulevard. L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans, poche de short, pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir.
Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare pour discuter d'actualité judiciaire. Maître Bellemare, pendant le temps des fêtes, du moins au début du temps des fêtes, mettons le 18 décembre dernier, il y a un événement qui est survenu en Beauce où un camionneur qui descendait une côte, malheureusement, a renversé tout son chargement sur un automobiliste qui circulait sens inverse. Le nom de la dame, c'est Alexandra Poulain. Elle est décédée le 18 décembre dernier. Et il y a eu toute une communauté qui s'est mobilisée. Bon, les citoyens de Beauce qui sont toujours très proches les uns des autres, la famille aussi d'Alexandra Poulain, les camionneurs qui se sont mêlés dans la danse aussi, les pompiers qui essayaient de tant bien que mal de s'expliquer qu'est-ce que c'était passé, les policiers qui étaient là-dedans. C'est votre nom que j'avais vu passer dans l'article. Fait que c'est pour ça que ça me disait quelque chose, que j'avais entendu parler de vous pendant le temps des fêtes. C'est une jeune femme de 26 ans qui a perdu la vie. Et Maître Bellemare, ça aurait certainement pu être évité.
Oui, c'est ça. La petite fille est une résidente de la Beauce. Je ne sais pas si tu connais un peu Vallée-Jonction. Moi, je vois là souvent parce que quand je vais à Thetford, je prends l'autoroute 73 Sud en direction de Saint-Georges-de-Beauce. Puis je sors à Vallée-Jonction, puis là, je peux prendre la route pour aller à Thetford, la route secondaire. Alors, c'est effectivement une côte, quand tu sors de l'autoroute, qui fait peur un peu.
C'est la grosse côte, là, oui.
Et la côte arrive sur la route là, qui mène à Saint-Joseph. Et si tu manques ta côte, bien, tu te ramasses dans la rivière Chaudière. Il y a un restaurant qui est là, il y a un garage Shell, je pense, qui est à gauche aussi. Et c'est toujours un peu, tu sais, tu descends une côte importante. C'est sûr que quand tu es un véhicule normal qui pèse 3-4 000 livres, bien, là, c'est moins important. Mais ce qui s'est produit, c'est que le camionneur, semble-t-il, n'aurait pas fait les arrêts qui étaient indiqués dans la côte. Parce que tu es obligé de faire des test breaks, qu'on appelle, là, de tester le train, pour ralentir ta vitesse. Puis d'après, en tout cas, c'est ce qu'on m'a rapporté du côté de la famille, c'est que semble-t-il, les caméras auraient noté qu'il n'aurait pas fait toutes les mesures qui s'imposaient pour ralentir sa vitesse.
Parce que si jamais Maître Bellemare, le camionneur, s'aperçoit qu'il manque de frein, exemple, il y a un bassin qui est là, juste à votre droite, dans le bas de la côte, là, quand vous descendez, il y a un bassin qui est à votre droite, les camionneurs peuvent aller là-dedans, c'est rempli de sable, puis ça sert à ralentir le camion. Donc, si jamais il avait dénoté quoi que ce soit, bien, il aurait pu prendre ce fameux bassin de rétention-là. Là.
Oui, mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a descendu la côte à haute vitesse. Il n'a pas arrêté. Et en bas de la côte, c'était le feu rouge. Et Alexandra Poulain, elle, avec ses 26 ans, s'en venait en direction de Saint-Joseph, donc en direction sud. Et elle a été frappée par le véhicule qui a complètement capoté et qui a tué Alexandra sur le coup. Alors, tu comprends bien que les gens de la région, ben les Jonctions, Sainte-Marie, Saint-Joseph, qui passent là soir et matin, ils sont en colère parce que ça fait longtemps qu'ils savent, eux autres, que cette côte-là est dangereuse. Et il a, ou bien le ministère des Transports n'a pas pris les moyens pour faire en sorte que cette côte-là le soit moins, parce qu'il y aurait certainement possibilité de le faire. On l'a vu aux éboulements, on se souvient le drame des éboulements des années 80 dans Charlevoix, où il y a un autobus qui a descendu à la côte puis qui a manqué la courbe, où il y a eu, je pense, 44 morts. Ça nous rappelait cet événement-là, triste. Alors, on a remodelé la côte des éboulements par la suite. On l'a corrigé. C'est Lucien Bouchard, je pense, qui était premier ministre à l'époque. Alors, on a remodelé la côte pour faire en sorte qu'elle soit beaucoup moins dangereuse. On pourrait le faire avec les jonctions aussi. Donc, le ministère des Transports a peut-être une part de responsabilité dans l'événement. Et aussi, la compagnie de camions, de transport, qui a, semble-t-il, un dossier de conduite assez moche, avec plusieurs infractions. Plusieurs rappels qui ont été faits, la commission des transports, etc., pour dire qu'il y avait des irrégularités dans le processus, que l'entretien des véhicules, il y avait des infractions, en tout cas, qui avaient été signalées. Alors ça, évidemment, la famille, la mère particulièrement, Nathalie Poulain, s'est complètement effondrée d'abord de la mort de sa fille qui était dans la fleur de l'âge, mais en plus de ça, elle va avoir des réponses. Puis là, c'est pas juste la famille Poulain qui est impliquée dans le processus, mais c'est aussi toute la communauté qui veut avoir des réponses. Et là, l'affaire, c'est qu'à cause que c'est un accident d'auto, ben là, il n'y a pas de poursuite possible. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chauffeur de camion est à l'abri de poursuites civiles de la part de la famille. La famille ne peut pas poursuivre non plus la compagnie de transport, ne peut pas poursuivre le chauffeur à cause du no-fault. Peut pas poursuivre non plus le ministère des Transports à cause du no-fault. Fait que tout ce beau monde-là s'en tire assez bien, sans poursuite civile possible. Par contre, il pourrait y avoir des accusations criminelles, mais ça ne donne pas une scène à la famille, évidemment, puis ça ne ramènera pas la petite Alexandra, mais il y aura une possibilité, on le verra au cours des mois ou voire des années qui suivent, parce qu'il y aurait possibilité qu'il y ait des accusations de négligence criminelle contre le chauffeur, et aussi possibilité que, parce que maintenant c'est possible depuis 2004, possibilité que la compagnie de transport soit accusée au criminel malgré le no-fault. Mais ça, c'est le processus de justice criminelle là, qui fait qu'il peut y avoir des emprisonnements, qu'il peut y avoir des amendes, qu'il peut y avoir des suspensions de permis. Mais comme je te dis, la famille, elle, est complètement éliminée du processus et elle n'a aucun recours pour pouvoir obtenir des réponses aux questions qu'elle se pose. Parce que, tu sais, les coronaires qui enquêtent sur les décès troubles comme ça, ils font des rapports. Souvent, ça vient un an, un an et demi après. Une page ou deux, un résumé. Ben, il est arrivé telle affaire, la cause du décès, c'est ça. Mais tu sais, ça ne donne pas beaucoup d'explications. Et la loi sur les coronaires ne permet pas aux coronaires de conclure à la responsabilité civile ou criminelle d'une personne. Fait que c'est plutôt évasif plutôt. On s'aperçoit que souvent, il n'y a pas de suite au rapport du coroner. Alors, c'est assez décevant. Moi, j'ai renseigné la famille là-dessus parce que je suis leur avocat. Je leur ai donné toute l'information possible. Mais le seul espoir qu'on a là, actuellement, qu'il puisse peut-être y avoir un peu plus de lumière qui soit faite, c'est que la police, finalement, après enquête, conclut qu'il y a eu négligence criminelle de la part du chauffeur ou de la part de la compagnie, si jamais les freins étaient défectueux, que le véhicule n'était pas bien adapté aux circonstances, qu'on a fait preuve d'une attitude téméraire ou déréglée à l'égard de la vie d'autrui, négligence criminelle causant la mort, ça pourrait arriver que ce soit le cas. Puis incidemment, notre chauffeur, lui, compte tenu que c'est un accident de travail, parce que lui, dans ses fonctions, il est sur la CSST, j'imagine encore aujourd'hui, pour un choc nerveux et des blessures physiques.
Ben,
Alors,
sûrement, parce que j'imagine que quand il a embarqué dans son camion, là, c'était pas son objectif de tuer quelqu'un. Malheureusement, il a peut-être pris
bon, c'est
des
ça.
mauvaises
Mais
décisions qui ont fait en sorte que ça a enlevé la vie à quelqu'un.
lui et sa CSST, en tout cas, il a le droit de l'aide si jamais il y a des blessures physiques ou
Ouais.
psychologiques. Mais la mère de la petite et le père de la petite et les frères et sœurs de la petite, qui est décédé, eux autres, ils n'ont pas droit à des indemnités de la SAC, là. Aucune.
Si
Parce qu'ils
c'est.
n'étaient pas présents au moment où l'accident est arrivé.
Ouais, s'il y a une
Fait que,
poursuite
il y a un peu
criminelle.
de colère qui s'installe dans ces
Ouais.
cas-là de la façon dont on traite les victimes de la route.
S'il y a une poursuite au criminel, puis ça s'avère qu'il y a quelqu'un qui est déclaré coupable, est-ce qu'il pourrait avoir de l'aide de l'IVAC par la suite?
Non, parce que compte tenu que c'est un accident d'auto survenu dans un contexte criminel, si c'était criminel, c'est la loi sur la SAC qui s'applique.
OK.
Quand c'est un acte criminel, accident d'auto, c'est la loi de la SAC qui a priorité. La loi de la SAC empêche tout recours civil, puis empêche la mère d'obtenir toute indemnité, même pour des traitements psychologiques.
C'est une côte que j'ai pris régulièrement. Je le prenais avec mon véhicule, puis effectivement, ça devait chauffer les freins parce que ça descend sur un méchant temps dans le secteur de Vallée-Jonction. Puis en bout, comme vous l'avez expliqué, là, au bout de cette côte-là, en bas de la pente, si vous passez tout droit, c'est la rivière qui s'en vient. Fait que j'imagine que si vous êtes en problématique, vous allez tenter de tourner soit à gauche ou à droite. Ce qu'on aimerait du côté des Beaucerons, du moins qui ont été consultés par les médias, c'est de faire fermer totalement cette côte-là aux camionneurs. Est-ce qu'on trouverait comme une
Ouais,
voie de
moi,
contournement?
ça serait possible. Il y a des rues à Québec un peu partout où on ne peut pas circuler en camion. C'est possible d'aménager la route pour faire en sorte que certains véhicules ne soient pas autorisés à circuler. Mais tu sais, la Beauce, là, quand tu descends pour aller à Saint-Joseph, puis tu sors de l'autoroute, ben, tu as une méchante côte
C'est
aussi.
une bonne côte, oui. Ah, ben vous parlez complètement jusqu'en bas,
Ben, c'est-à-dire, quand tu descends, quand tu sors de l'autoroute,
là. Ouais.
là, tu arrives à la route secondaire.
C'est ça. Puis là, vous descendez jusqu'au
Quand tu
boulevard.
arrives à la route secondaire, il y a une espèce de gros bouton là, qui est
C'est
là,
ça,
que tu
exact.
dois un peu contourner pour pouvoir descendre,
Ben
pour prendre ton
là, c'est
aller plus
problématique.
bas.
Là, je
Oui, c'est
m'embarquerai pas
pareil.
avec un camion remorque là.
Non, mais si Alexandra avait été en bas de la côte, imagine le même
C'est
scénario, mais
fini.
la côte de Saint-Joseph, je pense qu'il y aurait eu le même problème,
Ah,
parce que tu descends à peu près à la même vitesse là,
ouais.
quand tu sors de l'autoroute. Puis les gens qui sortent de l'autoroute puis qui prennent cette côte-là, ben d'habitude, il y a moins. C'est sûr qu'il y a un stop quand tu sors là, pour prendre la côte, mais s'il n'y a personne, le stop, penses-tu que le camionneur puis les autos font tous leurs stops? Ils ne font pas leurs stops. Ils ralentissent peut-être à 30 km/h, ils prennent la courbe, puis ils continuent, puis ils reprennent leur élan.
Ouais.
C'est des endroits dangereux,
Ouais.
c'est sûr. Mais partout où il y a des côtes au Québec, c'est pareil. Dans Charlevoix, il y a des côtes. Quand tu arrives à Clermont, à la Malbaie, quand tu prends la côte de Clermont, ça descend à tabarnouche, là, à Malbaie. Quand il y a des côtes, ben, il y a des risques accrus, puis je pense que le ministère des Transports doit faire attention pour s'assurer, surtout quand c'est des véhicules lourds, des véhicules qui pèsent 15-20 tonnes, là, ça donne pas grand-chance quand t'entres en collision avec ça, là.
Ouais. En même temps, je serais curieux s'il y a des auditeurs qui sont camionneurs, qui nous écoutent présentement, qui m'envoient la réponse. Mais c'est parce qu'il y a des endroits où vous descendez des côtes puis vous ne pouvez pas utiliser le fameux frein moteur, là. Donc, il faut y aller directement sur le métal sur métal. C'est-tu les Jacob de mémoire? Mais bref, tu sais, les citoyens se plaignent tellement du bruit des camionneurs alors que les camionneurs font juste leur travail puis ils font en sorte qu'on est capable d'être entouré de toutes sortes d'ameublements puis on est capable de manger aussi. Fait que ça, c'est grâce aux camionneurs. Mais les citoyens se plaignent tellement que les villes mettent des pancartes un peu partout. Vous n'avez pas le droit d'actionner le frein moteur là, patati patata. Ça veut dire que faire sur faire, là, quand c'est des grosses côtes comme ça peut être problématique, maître Bellemare, là. Les
Oui, c'est sûr.
fers
Non,
deviennent
mais
rouges, là.
moi, ce n'est pas les camionneurs souvent que je blâme parce que je pense qu'ils font leur travail. Puis, tu sais, il y a des camionneurs qui sont rock'n'roll, là, mais la plupart sont très, très courtois et très corrects. Mais c'est les compagnies de transport parce que, tu sais, dans le cas des éboulements, il y a plusieurs années, c'était l'autobus qui était tout croche avec des freins qui étaient dysfonctionnels. Si tu as un véhicule qui emprunte un véhicule lourd, un fardier, qui emprunte un trajet où il y a des côtes importantes, il faut que tu aies des freins qui marchent, il faut que tu sois capable de t'immobiliser, il faut que tu sois capable de ralentir, il faut que tu aies des véhicules performants, surtout si tu transportes des marchandises lourdes. Et là, c'est ça que l'enquête de police, je sais qu'il y a une enquête de police actuellement qui, puis ça, c'est de longues expertises. Ils vont devoir faire une évaluation du véhicule, vérifier les freins, comment c'était, est-ce que ce véhicule-là était destiné à circuler à l'endroit où il s'est trouvé au moment de l'accident. C'est la grande question. Puis j'imagine que c'est en 2025, à un moment donné, qu'on va savoir s'il y aura ou non des accusations qui seront portées, puis on sera capable d'en informer les auditeurs à ce moment-là.
En terminant, maître Bellemare, vous avez été voir la game du Canadien contre les Panthers de la Floride?
J'ai vu le 3, le 4 à 0, et j'ai vu un goaler, comment il s'appelle, Godet, c'est ça?
Dobesh.
Gobèche. Écoute, franchement, là, j'avais l'impression de revoir Patrick Roy dans ses bonnes années.
Oh, hey, c'est gros ça là.
Il en a arrêté.
Est-ce que vous êtes encore là, maître Bellemare? Non, on a perdu maître Bellemare. Matt Bellemare, est-ce que vous êtes là? Une fois, deux fois, trois fois. Donc, on a perdu Maître Marc Bellemare. Ce qu'il voulait nous dire, c'est que Dobesch, le nouveau gardien de but qui est arrivé chez le Canadien de Montréal, qui arrivait de la Ligue américaine, eh bien, a réalisé toute une performance contre les Panthers de la Floride. Et il en avait arrêté des rondelles. Il sentait le caoutchouc après le match. Maître Bellemare, je vous souhaite de passer une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine, si vous m'entendez toujours. Et pour ce qui est des auditeurs, ben, on se reparle demain à 10h. Je serai en compagnie d'Audrey Péchaud.
Marceau, le soir. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement leur